L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Ouf! C'est ce genre de matin où je monte de rire parce que tu dois lâcher prise à un moment donné.
Oui.
C'est hilarant. Ce matin, mon cadran a pas sonné. Fait que ça ressemblait à « Whoop, il est 8 heures. Whoop, faut que je me fasse une couette parce que j'ai pas le temps de prendre une douche. Whoop, j'ai une heure de route à faire.
Whoop, je suis stressée. » C'est parce que t'as un job aussi comme bête du monde qui a aucune permission d'arriver en retard.
Mais non.
Puis t'habites à 45 minutes
d'ici. Et là, je suis dans un état d'esprit où je n'ai aucune préparation.
Oh,
on a un invité ce matin qui est super intéressant, qui s'en vient, Étienne Guertin-Tardif. Vous avez certainement vu son nom passer dans les médias dans les derniers mois parce qu'il a écrit son premier livre comme sociologue qui s'appelle « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins », un titre qui est assez catchy. Et Étienne va venir nous jaser de deux phénomènes, deux textes qui ont retenu notre attention dans la dernière semaine, soit les parents qui auraient un enfant préféré et la montée de l'homophobie de la part des jeunes dans les écoles. C'est quand même deux sujets qui nécessitent un peu de recherche, un peu de lecture, un peu de préparation.
En même temps, d'être accompagné par un sociologue, ça fait en sorte qu'il n'y a aucune question qui est niaiseuse.
Ah, puis on est avec un professionnel.
Tout le monde va être interpellé. Le 88-971-101 va déborder. Twitch va déborder. Ça va être un genre de grosse discussion commune.
Aujourd'hui, c'est une émission d'improvisation. Ça en prend une de
mixte,
temps en temps.
À caractère brouillon.
Hey, je m'appelle Audrey Pinchot. Peut-être commencer par se présenter. Vous avez entendu la douce et belle voix de Pascal CV ce matin. Salut, Pascal.
Salut!
Vous êtes dans l'open mic un peu brouillon. Je sais pas si Yannick serait fier ce matin. Là.
Mais c'est parce que c'est sa description.
Exactement, c'est ça que j'allais dire. Quoi qu'il n'y en ait pas tant organisé que ça. Il est en vacances. De retour officiellement lundi prochain. Différentes façons de nous rejoindre ce matin. Il y a le 88-971-1021 par texto. Vous êtes déjà quelques-uns à être présents. Et il y a le 88-780-1021. Ça, c'est le téléphone. Vous ne gênez jamais. Hein? On est parlable, parce qu'elle est vous appelez quand vous voulez. On va discuter de tout et de rien.
Vous en rappelez la dernière fois, là, quand je mettais les gens en onde, là, c'était d'une finesse là, et d'une exactitude. Gênez-vous pas.
Une catastrophe d'avant-temps des fêtes
qu'on
laisse en 2024, mais on est prêts à recommencer en 2025.
Oui,
il y a évidemment le Twitch aussi, twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM. OK, ça part. Peut-être commencer par vous dire qu'il fait vraiment fret aussi ce matin. Là. Beau, mais frette.
C'est poétique. J'adore ça quand ça craque. Moi, j'aime ça me lever quand il fait encore noir, que je sens qu'il fait froid.
C'est frais sur un temps. Ça fait du bien, je te dirais. Si tu restes pas trop longtemps dehors, là, la bonne respiration fait du bien. J'ai branché mon char pour la deuxième journée en espérant que ça aide.
Ça se fait encore, ça.
Hey, sais-tu quoi? Ça aide, Pascal.
Oui, ça reste... ça garde le moteur un peu chaud.
Ben c'est ça. Mon chum me disait, crois-moi, tu vas voir, mec, tu ouvres ton char, tu mets le chauffage va déjà être chaud, ça va te donner un coup de main. Fait que lui branche mon auto à 4 heures le matin. Puis moi, quand je pars vers 7h30,
okay,
normalement...
OK, tu le branches pas toute la
nuit,
là? Non. Okay.
Là, ben je la débranche, puis le char va bien, il rote pas, il n'y a pas de trouble. Fait que c'est une pratique que j'avais jamais utilisée, mais que maintenant, je vais garder définitivement. Alerte de smog aussi pour aujourd'hui, là, dans le secteur de Québec, jusqu'à midi. On dit qu'il y a des concentrations élevées de particules fines qui sont prévues puis qui vont entraîner une mauvaise qualité de l'air. Je regarde présentement les températures. On est à moins 21. Ressenti, on est autour de moins 30 actuellement.
Oui, ça paraît quand tu oublies tes mitaines. Tu vas changer ta mitaine demain. Là, ça, c'est sûr. Mais tu sais, on chiale pas. Il y en a qui... Bon, c'est un dépourvu de moyens là-dedans. Là. On parle aux gens qui sont en situation d'itinérance. Mais quand tu es bien habillé, tout se fait très bien.
Bien, c'est drôle, je disais ça hier dans le retour, puis Denis me disait, voyons, tu fais le don bien chialeuse, tu sais.
Chialeuse sur quoi?
Bien, en fait, j'essayais de contrevenir au chialage qu'on a envers l'hiver.
Puis te traitais de chialeuse?
Bien, il aimait pas, je pense, que je contredise le fait qu'on a le droit de chialer sa température en tant que Québécois, là, mais moi, l'hiver, je trouve ça le fun, je trouve ça beau. Je trouve qu'on est chanceux d'avoir cette variation de température-là. Bon, c'est boiteux, tu vas me dire, au printemps, c'est pas toujours sexy, là. Mm. Mais on a des sports d'hiver qui sont tellement trippants, c'est frais. Moi, je préfère l'hiver à l'été. J'ai toujours été une fille vraiment, vraiment plus d'hiver. C'est sûr qu'il y a des journées de marde, là. Tu l'as dit, il y a des conditions où les gens qui sont dans la rue, les gens qui peut-être ont des maisons, des appartements moins isolés, qui n'ont pas le chauffage, je sais pas moi qui...
Il y a un parc de maisons mobiles sur la côte de Beaupré que quand il fait froid à plusieurs jours consécutifs, ils n'ont plus d'eau chaude.
T'sais.
On est toujours bien juste à la côte de Beaupré. Là.
Puis je veux dire, quand tu fais frais dehors puis tu n'as plus d'eau chaude, l'eau est glaciale, on va se le dire. On va se le dire là. Mais mettons qu'on regarde le beau côté, je trouve qu'on est quand même chanceux. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est ensoleillé pour la journée. On est à moins 23 ce soir et cette nuit avec des possibilités de neige. Moins 12 demain, ce sera plus nuageux. Vendredi et samedi, gros soleil. Et là, on est dans des températures peut-être un peu plus acceptables, là, du moins 10, moins 12 avec des nuits un peu plus froides. Dimanche, ça va être doux, de la neige, moins 4 degrés. Puis comme je vous dis en ce moment, c'est quand même frais avec un moins 21 à l'extérieur. Ça roule pour l'instant sur les routes. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit, vous ne vous gênez pas. 418-971-1021. Y a-t-il d'autres mondes sur le texto qui ont des drôles de matin?
Ou... c'est plutôt des gens super optimistes par rapport à l'hiver. Mais non, il fait moins froid que prévu. On est bien une fois habillé. J'ai fait 5 km de ski de fond. Quelqu'un d'autre qui nous témoigne avoir profité de son sport d'hiver quand personne sortait vraiment parce qu'il faisait trop froid. Elle s'est habillée puis est allée bouger à l'extérieur. Quelqu'un qui dit on est super chanceux. Puis pour faire du pouce là-dessus, moi, j'ai déjà pensé régulièrement d'aller vivre 6 mois ailleurs. Puis j'ai jamais été capable de statuer ça serait quand dans l'année. Parce que j'ai peur de perdre une portion de l'année dans les saisons.
Bien, tu sais, je veux dire, mettons que tu me donnais pas le choix, là, moi, je partirais probablement de février, mettons, à l'été. Tu sais, le bout de printemps un peu moche, là.
Je l'aime, moi, il me fait revivre. Puis ben, l'automne, je trouve ça dur.
T'as raison, parce que le bout, le fun du printemps, c'est quand t'as les premières journées de soleil où il fait un genre de 10-12 degrés, tu sors tes souliers tranquillement, pas vite. Il y a de quoi triper.
Petite terrasse en foulard, lunettes de soleil, tu vas me dire, tu peux faire ça à l'automne aussi, c'est vrai.
Mais c'est différent parce que t'as 6 mois entre, là, t'as le temps d'oublier.
Ouais.
Puis l'inverse, c'est aussi vrai, quand l'été termine, puis il commence à avoir une petite fraîche, puis les arbres qui rougissent.
Mais j'avoue que... Hein? Bon, oui, c'est connu, là. On ne changera pas d'attitude. Là. Février, ouais, je comprends. Mettons fin février à avril, peut-être.
Ouais.
Ou début mai.
Ouais.
Ce serait une période intéressante pour l'ailleurs. J'aime ça, les gens, ils sont super contents. Pas de bibitte, pas d'odeur de poubelle l'hiver. Ça,
mais
c'est
oui.
Le fun. OK, allez-y. On va prendre les présences de cette façon-là. 88-971-1021. On va trouver tous et chacun quelque chose d'original et de positif à dire par rapport à ce froid glacial-là.
Bien, tu vois, René Pascal nous dit, bon, changer pneu de camion, c'est frette, là, mais on aère les poumons.
C'est bien
on
dit.
Essaie d'être positif en matin,
oui.
J'aime ça.
Oui.
Hey, je veux te parler rapidement, Pascal, parce que je sais que c'est ton genre aussi d'endroit puis de concept. Puis j'en avais comme glissé un mot à Yann, puis on n'avait pas eu la discussion, mais je pense que ça se fait ailleurs dans le monde. À Bécancour, un café où les clients décident comment ils paient. Puis c'est un concept où il faut que tu aies confiance en ta clientèle, là, parce
ouais.
qu'on va se le dire, le café chez Starbucks vaut 9$, là, fait que tu comprendras que faut quand même que tu sois capable de donner un montant juste, mais c'est un café en Mauricie où les clients ont un modèle de tarification qui permet justement à chacun d'aller profiter de l'endroit dépendamment de leurs moyens financiers. Puis je trouve ça super intéressant, c'est le café Kaiju que ça s'appelle. Ils ont fait une entrevue avec les propriétaires il y a une couple de semaines pour parler de ce système de tarification libre-là, parce que ça chamboule une clientèle. Là. Imagine, on va prendre un café, on ne s'attend pas à ça. Là. T'arrives pour payer, puis c'est comme, ben, tu donnes ce que tu veux.
Mais si tu viens mal au départ, autant que lorsque tu as le compteur de pourboire devant toi, puis que tu as une sélection de 18, 20 ou 25 et non le 15 que tu connaissais auparavant.
Tu te sens pratiquement obligé de donner plus,
ben,
ça ne chante pas trop les prix.
T'as un dilemme intérieur, je pense.
Oui, mais moi, je trouve ça intéressant. Puis sur le coup, mon premier réflexe, c'est de me dire, ben non, c'est sûr qu'il y a des gens qui... Il y a quelqu'un sur Twitch qui nous dit « Attention, le café Starbucks ne vaut pas 9$, il nous charge 9$. »
J'avais la même réflexion
que cette personne. Je suis 100% d'accord. C'est vrai que ça ne vaut clairement pas 9$, mais...
Sauf celui où tu as de la crème fouettée, un sirop de scie, des fruits séchés, des cibes.
Bon. Il faut se le dire, par exemple, que c'est le brand probablement plus qu'autre chose pour lequel on paye. Là.
Sauf qu'on en reparlera, là. Mais moi, je suis une fière abonnée de Masterclass. Si je peux vous donner un conseil de cadeau à demander à vos proches, là, moi, ça a été dans mes cadeaux de Noël, ce renouvellement-là. Masterclass, c'est un Netflix pour apprendre. Non, je prends pas bien de pause avec mon cerveau, je comprends, mais c'est des choses qui m'intéressent, qui me passionnent. Puis t'as plein d'experts, t'as d'anciens politiciens, Bill Clinton.
Mais c'est quoi? C'est une application?
C'est une application que tu peux avoir sur ton téléviseur ou dans tes appareils, mettons, iPhone, iPad, peu importe, Android, il y a pas de marque là, qui est privilégiée. Mais c'est un genre de Netflix, mais d'apprentissage. Puis j'ai ça, moi, dans mes affaires depuis au moins 5 ans. Puis à chaque année, il y en ajoute. Tu veux apprendre le tennis, t'as des Serena Williams qui te l'enseignent. Tu veux apprendre à faire de la cuisine, t'as Massimo Bottura, pour quelqu'un qui connaît l'italien, qui a un restaurant étoilé, qui a changé la cuisine italienne à sa manière, qui va te faire de la cuisine devant toi. Tu as des cours de leadership, tu as des cours de partir de ton entreprise, tu as des cours de bien-être mental. Il y a un gars que j'adore en psychologie qui s'appelle Jay Shetty, que je suis autant sur Spotify que sur Masterclass, qui donne des cours, puis c'est autant audio que vidéo. Fait que des fois, tu peux écouter juste en vidéo si tu souhaites. Tu peux...
Puis tu as utilisé Masterclass pour le café?
Bien, en fait, pourquoi est-ce qu'on parlait de Masterclass?
Excellente question, je t'ai...
je savais pourquoi mon lien, mais en expliquant...
Le café à 9 piastres, la marque?
Starbucks! Merci, Starbucks. T'es tellement fine. Le PDG de Starbucks explique comment il a monté son entreprise et au dépens des prix qu'on juge souvent très sévères, l'humanité derrière la manière dont ils ont monté son entreprise est exceptionnelle. Juste des employés. Lui, il encourage beaucoup ses employés à continuer d'aller à l'école, contrairement à certains, peut-être, employeurs qui disent « Non, on veut qu'ils restent au sein de l'entreprise, on les a formés. » Lui, il paye même certains frais scolaires pour des gens plus défavorisés qui viennent travailler au café. Mais il y a une façon structurelle de voir l'entreprise. Ça a tout changé.
Mais il y a une grande liberté et une grande mentalité, effectivement, derrière cette entreprise-là. Ça, tu as 100 % raison. Je pense que le fait aussi, la façon de traiter la clientèle. Et tu sais, je parle de marque, mais c'est niaiseux, ça a tellement fait jaser quand ça a commencé, le fait que nos noms étaient écrits sur notre breuvage.
C'était pas mal marketing. Ils font exprès de se tromper des fois.
Mais oui, mais parce qu'après ça, t'en parles.
Mais
ça
moi,
pour ce coup,
là, ça va être correct. Là.
Moi, je change mon nom des fois quand je vais ailleurs.
Tu t'appelles Maria.
Mais non, mais c'est parce que, tu sais, en anglais, c'est pas super.
T'es une latine, tout à coup.
Audrey, là, ça se prend pas dans toutes les langues, moi, de dire. Là. Fait
Audrey.
Souvent, là, je modifie un peu.
Tu t'appelles?
Ben, et moi, mon deuxième nom, c'est Marina. Fait que des fois, je trouve que c'est plus facile, peut-être, à écrire. Tu sais, les autres, le AU, ça fait pas partie de leur phonétique. Marina, souvent, ça passe à peu près partout, là. Autant en espagnol qu'en anglais.
Tu me changer d'identité.
Oui, non, mais écoute, Marina, Audrey. Je me dis, regarde, au moins, ils ont une façon de faire différent. Fait que Masterclass pour les gens qui nous ont suivis dans notre désordre ce matin, si jamais ça vous intéresse. Et on parlait de café parce que du côté de Bécancour, c'est ça. Il y a un café qui s'appelle le Café Kaiju qui te permet de donner ce que tu veux. Et là, il y a 90 % des gens qui ont probablement le réflexe, et je l'ai eu aussi, de se dire, ben là, il y a du monde qui vont abuser. Mmh. Tu sais, tu prends un croissant, un café, puis je sais pas, moi, un petit sandwich ce matin, puis tu donnes juste 6 piastres, c'est clairement pas ce que ça vaut, tu sais. Et les propriétaires disent non, au contraire. Au contraire, souvent, les gens, justement, vont essayer de calculer pour donner le plus justement possible. Il y en a qui vont même donner plus quand ils sont en moyen. Puis ça nous permet de balancer pour les gens qui n'ont pas de sous, qui, des fois, ne sont pas capables de rien donner. Et eux misent sur le fait de bâtir une communauté.
Y a-t-il vraiment des gens qui allaient au café, mais qui n'avaient rien à donner?
Bien, probablement que ça arrive, j'imagine, dans la catégorie bâtir la communauté. Tu sais, si tu as quelques itinérants pas loin ou des gens qui ne sont vraiment pas en moyen, je pense que le but, c'est de les accueillir. Puis j'en suis venue à me dire, bon, on n'est peut-être pas là avec Saint-Roch, on s'entend, là, mais j'en suis venue à me dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être incorporer à Québec éventuellement, de se dire, bien, ce modèle d'affaires-là, il faut que tu aies les reins serrés.
Solide, ouais.
Solide, oui, parce que au départ, ça ne doit pas être facile là, de bâtir ce genre de business-là. Là. Mais eux, ils arrivent, ils ne disent pas qu'ils font le plus grand des profits nécessairement.
Mais ça ne semble pas être leur mission officielle.
C'est pas la mission. La mission est pas mal plus humaine. Puis je me dis, est-ce que ça pourrait être une belle façon à Québec de continuer la mixité qu'on a, mais dans un esprit peut-être un peu plus positif.
Y a-t-il cette possibilité-là d'ouvrir un genre de café où diverses classes vont se côtoyer aussi?
Bien, totalement.
Puis se voir le matin dans un endroit qui va être adapté à versus des endroits où on va les sortir parce que c'est pas adapté.
Exactement.
Puis qu'on soit la meilleure personne du monde, ça se peut que si tu travailles une personne en situation d'itinérance qui est en détresse ou en désorganisation, ça soit pas l'endroit par excellence pour le côtoiement dans un café, mais de penser à un endroit qui est fait pour ça. Est-ce que par contre, il ne faut pas que ça balance dans le fait que ça devienne un genre de l'aube rivière d'eau?
C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut des règles serrées. Mm-hmm. Moi, je pense qu'on parle vraiment de consommation ici. Fait que, est-ce que c'est une façon de... Il peut y avoir au pire un prix minimum, mais est-ce que ça peut être une façon de dire, sans vous venez crasher ici, on vous nourrit, par exemple, on peut vous aider de temps à autre. Y a-t-il manière de, mettre une journée par semaine au pire où il y a une production supplémentaire puis que tu vas nourrir gratuitement? On brainstorm, mais je trouve le modèle d'affaires et le côté humain super intéressant.
On le voit aussi l'été avec des maraîchers qui n'ont pas le temps et ont pu peut-être les employer pour aller tenir les petits kiosques en bord de route. Là, quand tu montes vers cette île, entre autres, tu en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est un genre, puis il y en a une, je pense aussi, un genre de petite place maraîchère comme ça sur le bord de la route, du côté de la rive sud, où les gens donnent en conséquence de ce qu'ils ont comme argent et où, selon les prix qui sont affichés, là, ça dépend des endroits, mais mettons 5$, t'es pas là, faut que tu fasses quand même confiance que ta clientèle va donner 5$ pour le panier de légumes que t'as ramassé. Puis ça fonctionnait comme un peu ce café-là, il réussissait même à faire plus d'argent des fois, selon le donner ce que vous pensez que ça vaut.
On parle souvent là, du côté négatif là, du monde, puis c'est normal, c'est ces histoires-là qui font réagir, puis on focalise sur le mal, mais je veux dire, et le monde n'est pas tout grosseur, là. On a des consciences quand même. Là. Fait que je trouve ça super intéressant, puis tu sais, tu parlais des maraîchers, il y a le glanage aussi, souvent qui va se faire après les saisons pour... le glanage, c'est... ils vont nettoyer, mettons, les champs. Mmh. Fait que tu sais, les fraises qui étaient moins belles ou les résidus de légumes puis de fruits, finalement, avec lesquels on peut cuisiner, même s'ils ne sont pas super beaux, bien des fois, ils vont ouvrir carrément. J'en avais parlé avec David Simard, le chum à Hello, qui a la ferme Simard. T'sais, ils vont comme ouvrir les champs, puis c'est venir ramasser le reste. Eux autres, ça leur rend service parce que tu viens de dégager leur champ, puis cette nourriture-là n'est pas chargée, puis au moins ça quelqu'un s'en sert.
Ah, ouais. C'est super intéressant comme
mais ce côté humanitaire-là, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Fait qu'en tout cas, si jamais il y a quelqu'un, il y a un entrepreneur qui a ce genre d'idée-là, ou est-ce que vous connaissez des endroits peut-être en périphérie qui ont des concepts qui sont aussi trippants. Je trouve que ça vaut la peine de temps en temps de sortir ce positif-là.
Absolument. Puis il y a quelqu'un qui nous dit qu'en Europe, il y a quelque chose qui s'appelle le café suspendu. Ceux qui ont les moyens paient leur café plus cher s'ils veulent. Ce qui est en trop est retenu par le commerçant pour offrir un café à ceux qui ne peuvent pas.
Je trouve ça beau.
C'est une autre façon de faire, presque semblable, mais dans mesure de l'application qui est différente. Là. Quelqu'un qui dit, j'ignore encore s'ils le font, mais il y a un endroit où on faisait de la restauration rapide qui avait un tableau avec des repas en attente que tu pouvais payer un repas. On l'inscrivait sur le tableau, puis quelqu'un qui n'avait pas la possibilité de le payer pouvait manger ensuite.
Hey, c'est beau, ça.
À Québec, ça.
Puis c'est sans pression, là. Je veux dire, ça donne que cette journée-là, tu as le goût de faire une bonne action. Bien, tu le payes le repas. Pis...
Aux États-Unis, ça existe beaucoup, ça.
Mais je trouve ça tellement intelligent. Ouais. Le même principe. As-tu déjà fait ça, payer le repas de. Bon, là, on est dans le un peu plus. Mais le repas de la personne au team derrière toi, mettons?
Non, ça m'est jamais arrivé.
Je trouve ça tellement hot. Moi, je me suis déjà fait faire. Mmh. J'arrive à la fenêtre pour payer mon petit lunch, puis la personne en avant de toi a réglé la facture. T'as aucune idée, c'est qui, dans le fond.
Ça change ta journée.
Hein? Puis, honnêtement, t'as le goût de le faire après. Ben mais je trouve que ces petites BA-là, je sais pas, font du bien à l'âme. C'est peut-être quétaine un matin, mais je trouvais ça beau. Puis, visiblement, on est plusieurs à partager.
Mais moi, j'aime pas ça quand on dit quétaine. Parce que je trouve que c'est réducteur.
Ça sonne négatif,
C'est réducteur face à ceux qui, de leur manière, selon leur portefeuille, font des petits gestes qui changent essentiellement la journée, le quotidien, puis la vision du monde.
Bien, totalement.
Puis, je trouve que des fois, là, le mot quétaine est venu qu'à empêcher ce genre de. Réflexion-là, de dialogue-là, puis c'est pas contre toi. C'est
non,
vraiment,
t'as raison.
On est gêné des fois d'aborder ces affaires-là parce qu'on dit, mais le monde va décrocher, les gens n'adhéreront pas.
Mais je me sens exactement comme ça.
Pour vrai,
t'as absolument
aussi.
Raison. Mais non, mais c'est parce que tu dis, on vit, on va se le dire, là, on a déjà eu les discussions, mais on vit dans un monde assez individualiste. Aujourd'hui, là, chacun s'occupe de ses petites bébelles, puis c'est correct, là, on est rendu là. Mais je trouve que ça manque, ces choses-là. Fait que chapeau, bref, pour boucler la boucle à ce café-là de Bécancour. Qui a mis l'humain devant, puis ça doit pas être facile comme entrepreneur à supporter, honnêtement. Fait qu'il faut que tu aies les reins solides, mais le mental solide aussi pour te dire que tu fais ça pour une bonne cause et une bonne raison.
Focus sur ta mission.
10h18, vous êtes dans l'open mic. Ça part officiellement avec les vulgaires machins ce matin. Dans quelques instants, on se connecte avec Étienne Guertin-Tardif, notre sociologue de la journée, pour parler des grands débats de société. Vous avez des questions, des réflexions? 418-971-1021. Voici Obsolète. Abonnez-vous. Vous êtes dans l'open mic, 10h23, vous le savez depuis hier, c'est la folie des inscriptions sur le blvd.fm parce qu'on a un méga concours qui s'appelle Touchdown dans ton salon. C'est pour le Super Bowl.
Oh, un de mes concours préférés qu'on a eu à Boulevard parce que quand t'aimes le foot, ça c'est Target.
C'est Target, puis c'est parce que quand tu regardes le foot en gang, souvent, t'as préparé déjà tes idées de bouffe. Ta gang est invitée à la maison. Tu veux que l'expérience soit le fun, tu veux que ça sonne. Et il faut des partenaires pour ça. Faut un bon système de son, faut une bonne TV.
Ça convient à tout le monde en plus, parce que les faux fans du Super Bowl sont aussi essentiels et importants.
Pour la mi-temps, entre autres. Donc, on pimpe ta maison en terrain de jeu ultime. C'est ça qu'on fait cette année pour le Super Bowl.
On est les exhibits du Super Bowl.
veux pas.
On est allé repêcher Stéréo Plus Audio Light pour vous offrir 3 250 $ d'électronique. C'est pas rien, là. La nouvelle télévision Samsung 65 pouces. As-tu idée? 65 pouces. Faites de la place dans le salon, là. C'est sorti cet automne, cette nouvelle télévision-là. Et on vous l'offre. Une barre de son aussi ultra mince Samsung avec le sub. Ça va sonner par chez vous. Comment participer? Assez simple. Vous écoutez Boulevard 101 tous les jours en semaine pour découvrir c'est quoi le salon de rêve des animateurs. Et vous notez ça au blvd.fm. En passant, il n'y a pas de limite de participation. Vous avez entendu l'indice hier. Vous pouvez les accumuler tous les jours jusqu'au Super Bowl. Et on va livrer ça chez vous le samedi, juste avant la game, évidemment, du dimanche. Donc, vous allez pouvoir installer tout ça à la maison, être prêt. Stéréo Plus, en passant, qui est maintenant dans un nouveau local au Mégacentre Le Bourgneuf, combiné à la maison Audio Light. Donc, encore plus de choix et de qualité. Surveillez ça sur la page concours blvd.fm. Il y a tous les détails, en passant, du concours. On jase ce matin avec un sociologue et l'auteur du livre « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins ». J'adore le titre de ce livre-là. C'est catchy, là, en partant. Étienne Guertin-Tardif qui est avec nous ce matin. Bon matin.
Hey, bon matin. Merci de me recevoir.
Bien, c'est un plaisir. C'est nous autres qui est vraiment... On est contentes parce qu'il y a tant de questions à poser. On a plusieurs sujets à aborder ensemble ce matin en partant. J'ai peut-être le goût, avant qu'on commence, Étienne, de te demander, ça fait quoi un sociologue au quotidien? Parce qu'on dirait que
c'est... un intellectuel pincé.
C'est flou quand même.
Hey, en effet, c'est flou. Puis je dirais que c'est une des questions les plus difficiles parfois à répondre lorsqu'on se la fait poser. Mais en gros, là, un sociologue va étudier... l'impact, l'influence de la société sur nos comportements, des comportements qui parfois nous semblent purement personnels, intimes, individuels. Mais finalement, le sociologue montre comment nos manières d'agir, de penser sont influencées par les différents contextes dans lesquels on se trouve, par la société, là, pour faire court, la société dans laquelle on se trouve. Donc, comment nos comportements sont conditionnés par les milieux sociaux dans lesquels on est ou par la société de manière plus générale dans laquelle on est appelé à évoluer.
Comment t'en viens à être intéressé par la sociologie? C'est quoi? Comment tu te rends là? C'est quoi les études? C'est un bac? C'est une maîtrise?
Oui, c'est ça. Il y a des programmes universitaires là, en sociologie, donc baccalauréat, là, qui est assez populaire. Beaucoup d'étudiants font leur bac en sociologie. Ensuite, on peut faire la maîtrise, on peut faire le doctorat pour ensuite devenir sociologue.
Ça rime à quoi, une fois qu'on est sociologue? Est-ce que ça rime à trouver des réponses exactes à certains courants de pensée ou courants d'agissement? Ou c'est plutôt une réflexion qui est constante?
Bien, être sociologue, c'est tenter d'étudier ce qu'on appelle les phénomènes sociaux. Là, c'est assez large. Mais tout ce qui se trouve, hein, le laboratoire du sociologue, en fait, il est un peu partout. Que ce soit le café que l'on fréquente, que ce soit, on étudie par exemple le système scolaire, ce que j'ai fait un peu dans mon ouvrage. Donc la société a une influence sur à peu près tout, évidemment, à commencer par les individus qui en font partie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tente de mieux comprendre, si on veut, le monde dans lequel on se trouve. Hein. Puis il y a les psychologues qui font ça également, les gens en économie, en sciences politiques. Mais si on veut, la sociologie, c'est un angle d'approche pour mieux comprendre tout ce qui est en rapport, si on veut, avec la vie humaine.
Donc, Étienne, ce matin, tu vas nous aider à comprendre pourquoi nos parents nous ont menti toute notre vie. Il y a un texte, il y a quelques jours, qui est sorti dans la presse, super intéressant, sur le fait qu'un parent aurait un enfant favori malgré lui. Puis pourtant, bien, on entend souvent que l'amour d'un parent, c'est inconditionnel, hein, qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce grand cœur-là. Est-ce que c'est vrai que la plupart des parents ont un enfant préféré?
Bien, écoutez, moi, j'ai été très, très, très surpris aussi de lire cette étude-là, parce qu'en effet, ça bouleverse les idées reçues. Ça met de l'avant le tabou, là, tu le mentionnais très, très bien, Audrey, selon lequel, bon, les parents ont un amour inconditionnel pour leur enfant, c'est-à-dire un amour qui ne se quantifie pas, hein, un amour qui est comme infini. Et là, tout d'un coup, il y a une étude qui sort qui nous dit, ben, dans le fond, les parents auraient un enfant préféré, un enfant favori, bien souvent, s'ils ont, évidemment, plusieurs enfants. Et ce que l'étude nous dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont les petites filles, hein, qui seraient le plus souvent, du moins, les favorites.
Les plus faciles à gérer, là.
Puis c'est la piste qui est apportée, hein, que ce serait, ben, on préfère souvent notre petite fille parce qu'elles sont plus faciles à gérer. Et puis ça, ça renvoie en sociologie à un concept qu'on appelle la socialisation genrée. On le sait, on ne va pas élever, éduquer, socialiser nos enfants de la même manière en fonction que ce soit une petite fille ou un garçon. Les garçons, souvent, on les incite. Là, Noël est passé, là, on voit les cadeaux de Noël qui ont été mis sous le sapin. Les garçons reçoivent des voitures, des super-héros. Les garçons sont appelés à se définir, si on veut, dans l'action. Alors que pour les petites filles, bien, on leur apprend davantage à être dociles. On leur apprend davantage à être sensibles, si on veut, aux attentes que l'enseignante, que l'enseignant, que les parents ont envers elles. En sorte que, bon, elle serait plus facile à gérer que les garçons, ce qui expliquerait, si on veut, le fait qu'elle soit préférée par leurs parents. Évidemment, puis l'article mentionne, il y a toute une dimension culturelle autour de ça. Hein. Mmh. On sait, par exemple, je prends un exemple flagrant qui est celui de la Chine, où pendant longtemps, il y a eu une politique, la politique de l'enfant unique, hein, de 1979, et puis jusqu'à tout récemment, elle a été abolie complètement en 2021. Politique de l'enfant unique qui faisait en sorte que les parents préféraient avoir un garçon. Vraiment, le garçon, bon, transmet le nom de famille, hein, poursuit un petit peu la tradition familiale. Le garçon également, qui est un soutien économique plus grand à la famille. Donc, il y a toute une dimension culturelle derrière ça, mais on se rend bien compte que dans nos sociétés occidentales, du moins, ce que nous dit l'étude, c'est que ce serait les filles, là, dans notre contexte social actuel. Là,
parce qu'elles veulent plaire.
Oui, c'est ça.
Étienne, dans notre préparation, dans notre emploi, c'est sûr qu'il faut se forger des opinions parfois, puis faire aller un peu notre cerveau, puis essayer de réfléchir autrement que ce qui est, bon, le plus souvent crié un peu ici et là. Et quand j'ai eu cet article-là entre les mains, je me suis dit, parfait, avant de le lire, je vais essayer de me positionner puis essayer de comprendre. Une des réflexions que j'ai eues, puis je l'avais notée, c'est est-ce que ça se peut que finalement l'enfant favori dans une famille soit simplement le reflet d'une meilleure réussite parentale en termes d'application de valeurs ou d'application d'éthique sociétale. Des fois, un parent va vouloir éduquer les enfants de la même manière, va prendre le même processus, puis ça va coller sur un petit peu moins sur les autres. Est-ce que ça devient peut-être, d'une façon semi-automatique, l'enfant qui est préféré parce que le parent voit une réussite dans cet enfant-là et donc ça l'auto-projette sur sa réussite parentale?
Bien, je pense que c'est une excellente hypothèse que tu poses là. Hein. Puis je pense, par exemple, moi, j'ai deux enfants aussi... qui fréquente l'école.
C'est lequel ton préféré?
Moi aussi,
je me suis posé la question, puis je peux tellement pas déterminer lequel est mon préféré. Mais en effet, dans nos sociétés, tu sais, je pense par exemple à l'époque de mon grand-père où les enfants étaient perçus un peu comme des travailleurs. Hein? Mon grand-père qui a été élevé sur une ferme, et puis mes arrière-grands-parents, tu sais, l'objectif d'avoir des enfants, est-ce qu'ils les aimaient sûrement, mais c'était avant tout, bon, de contribuer, si on veut, c'est un petit peu de contribuer à la ferme. Hein? On les faisait travailler. On avait une conception, du moins, de l'enfant qui était différente de celle d'aujourd'hui, où aujourd'hui, nos enfants, oui, c'est un petit peu comme tu le mentionnais, des projets. Hein? On veut qu'ils puissent réussir dans la vie, à commencer par le milieu scolaire. Et évidemment, moi, j'ai deux parents qui sont profs, là. Et puis on se rend compte que les petites filles souvent répondent beaucoup mieux aux attentes, ou du moins peuvent cerner davantage c'est quoi les attentes de l'enseignant, de l'enseignante, et puis performent mieux à l'école, sont plus faciles à gérer par les enseignants. Donc oui, la piste que tu mentionnes, c'est celle que je priorise aussi à la lecture de l'article là, qui a été publié dans la presse, hein, puis qui a été l'article qui était le plus lu là, cette semaine, qui démontre vraiment un petit peu l'intérêt que l'article a suscité, puis à quel point ça peut déranger, hein, de se faire dire que finalement on a un enfant qui est favori. Et ça, c'est un gros tabou. Ça me fait penser à une étude qui a été publiée il y a quelques années et qui portait sur les mères qui regrettaient d'être mères, tu sais, qui disaient, ben, si j'avais à retourner en arrière, peut-être que j'aurais pas d'enfant. Justement, pour l'aspect de la gestion, ça demande beaucoup de temps, une grande charge.
C'est confrontant pour un parent, là.
Bien, vraiment, c'est sûr qu'un enfant, ça bouleverse aussi la vie professionnelle, la carrière, ça touche davantage, notamment les femmes.
Tellement fait couler d'encre. Les gens étaient très... Il y avait vraiment des clans très disparates, là, puis il y en avait un, entre autres, qui était extrêmement fâché de ce constat-là, puis... C'est drôle parce que moi, je me disais, il y a au moins un aveu de vérité là-dedans. Il y a une réflexion en arrière de ça. Je pense pas que ça doit être exposé aux enfants, par exemple, parce que ça va nuire fort probablement au développement de cet enfant-là, de savoir que finalement, je t'aime, mais si j'avais recommencé, tu n'existerais pas. Oui. Mais ça reste essentiel que ces études-là soient faites. Puis ça me dérangeait que ça soit autant vivement critiqué, avec la nuance que j'ai apportée, de pas nécessairement le dire aux enfants. Étienne, t'en penses quoi?
Ben, en effet, je pense que la réalité, bien souvent, dérange. Hein, lorsque des études, notamment en sciences sociales, hein, lorsqu'on fait des études, par exemple, sur les planètes, ça dérange pas personne. Mais lorsqu'on fait des études en sciences sociales, ben, ces études-là portent sur nous, sur nos comportements. Ça peut être très, très, très confrontant. Mais oui, moi, je suis du même avis. Je pense que c'est important d'en parler. Puis qu'il y ait cette prise de conscience-là aussi de la part des parents, qui vont peut-être être appelés à se questionner puis à changer leur comportement. L'étude faisait mention notamment du fait que se sentir moins aimé en tant qu'enfant, mais ça a des effets sur l'estime de soi, par exemple, sur la construction identitaire. Et puis ça peut avoir des répercussions là, tout au long de la vie. Ça peut faire boule de neige, faire en sorte que des enfants prennent leur trou se sentent moins aimés et puis finalement n'ont pas la trajectoire sociale qu'ils auraient eu, qui auraient eu davantage cet amour-là ou cette impression-là d'être moins aimés que leurs frères, que leurs sœurs.
C'est pas un peu inévitable, Étienne, parce que j'imagine qu'il y a une question d'affinité aussi, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, là.
Absolument. Oui, absolument. C'est ce qu'on mentionne dans cette affinité-là. Dans l'étude, on mentionne que c'est plus un enfant et facile à gérer, plus il répond aux attentes à la fois de la famille puis aux attentes, je dirais, institutionnelles. Là, je pense à l'école parce que tous nos enfants sont appelés à la fréquenter. Ça peut être le milieu de garde aussi. Évidemment, on développe des affinités avec cet enfant-là qui nous fait bien paraître, cet enfant-là qui occasionne moins de troubles, qui nous prend moins de temps en termes de gestion, etc. Donc, peut-être que c'est inévitable, mais du moins, c'est un article qui dérange, hein, puis à commencer par moi, qui est papa de deux enfants, une fille et un garçon, ça m'a un petit peu chamboulé, remis en question.
Mais est-ce qu'il faut s'en vouloir comme parent? Parce que justement, tu le dis, c'est confrontant, mais c'est une vérité, puis je vais rebondir sur ce que Pascal disait. Il y a aussi le phénomène des mamans qui, au deuxième enfant, quand elles tombent enceintes, il y a une culpabilité parce qu'elles ne sont pas aussi excitées qu'au premier. Ils n'ont pas autant envie de passer à travers la même affaire qu'au premier.
Ils ont moins de temps aussi.
Effectivement.
Absolument. Oui. Carrément, puis il y a tout le temps cette peur-là de je pense en tant que parent, là, pour les parents qui nous écoutent, mais lorsqu'on a le deuxième enfant, on s'est posé, moi, la question, moi puis la maman de mes enfants, on s'est posé la question, hein, à savoir est-ce qu'on va aimer autant le deuxième, est-ce qu'on va délaisser le premier, est-ce que l'enfant plus vieux va se sentir moins aimé. Donc, je pense que c'est une étude qui à la fois dérange, mais c'est une étude qui à la fois parle à beaucoup de parents qui ont eu à passer, si on veut, à travers ce processus-là, ces questionnements-là,
ça peut qui viennent avec la venue.
Mais si on se sent justement là, concerné par ça, est-ce qu'on doit faire, selon toi, je pense pas qu'il y a de façon de faire là, qui est préécrite là-dedans, là, un genre de petit devoir de conscience de dire, bon, c'est-tu parce que j'ai plus d'affinité avec mon premier enfant que j'accorde un petit peu plus d'affection à cet enfant-là par justement la réussite que je sens parentale dans le processus puis la réussite que l'enfant a l'individualité de sa personne. Fait qu'est-ce que je dois faire un travail du genre, hey, même si mon deuxième enfant est différent de moi, il m'apporte telle affaire que personne m'aurait apporté si cet enfant-là n'avait pas cette place-là dans ma vie puis n'avait pas cette différence-là. Est-ce qu'on doit se confronter puis se reposer des questions pour pas que ça soit ressenti et peut-être pour amenuiser ce sentiment-là d'affection supplémentaire pour un enfant ou un autre?
Bien, je pense que oui. Je pense qu'il y a un devoir de conscience, à faire. Oui, se poser des questions si jamais on a plus d'affinité avec un, puis aussi peut-être nous encourager à développer des affinités avec l'enfant qui est différent, qui est peut-être plus difficile à gérer, tenter de trouver des moyens aussi de développer davantage d'affinités, de voir le potentiel aussi que cet enfant-là peut-être qui dérange davantage puis de voir ça peut-être comme étant un point positif aussi, hein, parfois c'est les ceux qui dérangent, s'inscrivent, transgressent les normes. Il peut y avoir aussi des avantages.
Beaucoup,
à cela. Ce sera peut-être des enfants plus résilients, des enfants qui vont être davantage fonceurs, qui vont se démarquer. Donc oui, de réinterpréter un petit peu ce comportement-là dérangeant, de le réinterpréter puis de le voir peut-être comme une force au lieu de le voir juste comme étant un fardeau qui nous tombe sur la tête, qu'on doit gérer. Donc oui, ben je pense que les études qui sont publiées en sciences sociales, surtout celles qui dérangent, apportent cet examen de conscience-là. Puis pour ça, je pense que c'est important qu'elles soient publiées, qu'elles soient diffusées, puis qu'on en parle là, comme vous le faites aujourd'hui.
Parlant d'examen de conscience, j'ai envie de terminer ce sujet-là avec cette question-là. Est-ce qu'on est trop intense avec nos enfants au Québec, Étienne? Tu sais, je sens qu'on ne traite pas toujours nos enfants comme des humains en part entière, mais plutôt comme une partie de nous, très, très rattachée à notre être. Il y a des gens qui font des enfants pour régler des problèmes personnels, ce qui ne devrait peut-être pas être fait. Mais
réaliser leur rêve des choses.
Oui. Est-ce qu'on est trop intense peut-être avec nos enfants?
Je ne sais pas si on est trop intense avec eux, tu sais, c'est comme c'est une lecture qu'on peut en faire, un jugement qu'on peut poser, mais chose certaine, les enfants aujourd'hui occupent une place qui est très, très, très importante, peut-être plus importante que jamais dans l'histoire, je ne suis pas historien, là, mais c'est sûr que le rapport qu'on a avec notre enfant, et comme tu le dis, les enfants aujourd'hui sont un peu un prolongement de soi-même. Les enfants sont tellement aujourd'hui planifiés, pour la plupart des cas, pas tout le cas, mais sont attendus, on veut qu'ils soient parfaits, on les inscrit à des cours de X, Y, Z. C'est vraiment comme des projets, hein, aujourd'hui, des enfants, puis on veut que notre enfant réussisse, puis cette réussite-là, souvent, va rejaillir aussi sur le parent qui va attirer une certaine fierté. Puis peut-être que dans ce contexte-là, il y a peut-être un certain lâcher-prise là, qui est nécessaire de manière à ce que c'est ça, relâcher la pression, injecter un petit peu de lâcher-prise et puis de pas voir les enfants comme étant des projets, des extensions de soi, mais comme des petites têtes à part entière qui font leur petit bout de chemin. Puis bref, on est là hein, pour les accompagner. Mais tout ça, ça dénote, j'irais là pour conclure rapidement, mais ça dénote vraiment, ça en dit beaucoup sur la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, la place qu'on accorde aux enfants.
Étienne Guertin-Tardif, qui est sociologue, auteur aussi du livre « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins ». Étienne, tu restes pas loin, on a d'autres choses à jaser ensemble au retour de la pause. L'homophobie qui est en montée dans les écoles secondaires, une étude assez fascinante qui a été faite du côté de Montréal. On revient.
Le pentathlon des neiges sonne.
Vous êtes à l'open mic, 10h47. On a toujours Étienne Guertin-Tardif avec nous, qui est sociologue. Ça fait énormément jaser puis réagir, là, Pascal, sur le texto. Le sujet de l'enfant favori, on a des parents, entre autres, là, qui se prononcent.
J'adore ce qu'on reçoit. C'est un super partage. Entre autres, il y a quelqu'un super honnête qui dit « J'ai tellement été comparée à ma grande sœur qui était meilleure que moi à l'école, qui réussissait bien mieux que moi dans tout, que j'ai arrêté après un enfant parce que je voulais pas faire vivre ça à tous mes enfants si j'en avais plus qu'un. » Puis c'est tellement diminuant de se faire comparer que cette personne-là décide de faire un enfant. Étienne, t'es-tu surpris de ça?
Oui, ben écoutez, c'est ça fait réagir, hein? C'est sûr que ça fait réagir. Donc, surpris, je le sais pas. En même temps, on se rend compte que c'est un petit peu ce que l'étude témoigne aussi. Donc, mais oui, c'est intéressant de voir que les gens s'identifient à ça.
Quelqu'un d'autre qui dit, moi, j'ai deux filles, une de 13, une de 21 ans. Et je peux pas dire que j'en ai une que je préfère, mais je suis plus à l'écoute, par exemple, ou compréhensive avec la plus vieille, celle de 21 ans. Puis je crois que c'est parce qu'elle a été consciente d'un moment de ma vie qui a été difficile. Une thérapie à l'externe pendant environ 3 mois sur 2 ans. Et je pense que ça m'a rapproché un peu de cette personne-là, mais que pour une enfant, de voir sa mère malade, ça peut avoir des graves conséquences sur plusieurs choses. Fait qu'elle est un petit peu déchirée par rapport à ce partage de vie-là. Quelqu'un d'autre qui dit « Lorsque je pense à l'éducation de nos parents qui était très sévère et l'éducation qu'on a avec nos propres enfants, dans ce cas-là, là, pour l'auditeur, l'auditrice et des filles, je vous dirais qu'on est à la réflexion de ce qu'on a appris de nos parents sans plus et moins. On a le droit d'être strict, mais assez souple aussi pour répondre aux besoins de nos enfants et de leur offrir ce dont ils ont besoin, que ce soit des besoins essentiels ou autres. » Mais elle dit « Je crois que les enfants doivent avoir le sentiment de gratitude très tôt pour être confortables, entre autres dans le foyer familial. » familial, là, si je résume la fin de ce texto-là.
C'est vraiment intéressant de vous lire. Il y en a qui sont outrés aussi du fait que certains parents agissent comme si leurs enfants n'étaient pas une personne à part entière, qui viennent combler un besoin. Il y a tellement de situations dans les différents foyers familiaux au Québec. 88-971-1021, si vous voulez continuer de partager. Il y a le 780-1021 par téléphone aussi, évidemment, la communauté Twitch. twitch.tv/BLVD/FM. On poursuit dans l'open mic avec Étienne Guertin-Tardif qui est toujours là. On change un peu de sujet. J'ai vraiment hâte de t'entendre sur celui-là parce que je sens que c'est tabou, c'est touché, c'est difficile de faire des constats parce qu'on veut pas, on veut pas nommer les mauvaises choses, on veut pas mal paraître. Mais moi, j'ai entendu beaucoup de choses dans les derniers jours par rapport à la montée de l'homophobie au Québec, surtout dans les écoles. Des chiffres quand même assez préoccupants, il faut le dire, là. 40 % des jeunes qui éprouvent un malaise quand on parle d'homophobie dans leur entourage, contre 25 en 2017. Et c'est perturbant parce qu'on a souvent l'impression que les jeunes nous font évoluer. Et là, c'est peut-être pas ce qu'on sent. Qu'est-ce qui explique ces chiffres-là, Étienne?
Bien, en effet, tu as raison de le mentionner. Hein. Souvent, les jeunes sont perçus comme étant porteurs de progrès, comme étant idéalistes, davantage à gauche, si on veut, sur l'échiquier politique que les plus âgés. Donc, en effet, ça fait réagir. Ce sont des chiffres sont préoccupants. Et puis oui, c'est surprenant. En même temps, il faut rappeler que souvent, les mouvements, si on veut, de progrès social s'accompagnent parfois de recul en arrière. Hein. C'est pas quelque chose qui est parfaitement linéaire, mais il peut y avoir des mouvements de backlash, excusez-moi l'anglicisme, mais de retour en arrière qui se trament. Là. Puis bon, je veux dire, en ce moment, on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis, hein, des droits qu'on prenait pour acquis, qui finalement, on se rend compte que, hey, non, il y a du recul sur ces questions-là. Donc, c'est ce que ça nous enseigne. Mais évidemment, la grande question, c'est de savoir mais qu'est-ce qui explique hein, ce recul en arrière, cette baisse de la tolérance, voire même de l'ouverture hein, des jeunes.
Un tournant conservateur, là?
Ben, il ne faut pas absolument, négliger.
Ça, c'est quelque chose qui semble relativement acquis. Hein, ben, relativement acquis. De proportion gardée, mais envers l'homosexualité. Et puis moi, en lisant l'article, évidemment, je me suis posé des questions en me disant, mais qu'est-ce qui explique ça? Et puis moi, j'ai deux hypothèses là, qui me sont venues en tête. Hein. Ce sont deux hypothèses. Ben, tu sais, premièrement, je pense qu'Internet est une niche de discours très, très, très accessible. Il y a à peu près de tout là-dessus. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour les jeunes qui fréquentent de moins en moins les médias traditionnels et de plus en plus vont suivre des influenceurs. Beaucoup plus facile d'avoir accès à des communautés où s'échangent des idées qui peuvent être davantage traditionnelles. Dans l'article auquel on fait référence, qui a été publié dans le Journal de Montréal, on parle notamment de l'influenceur Andrew Tate. Là, oui. Tout le monde a entendu le nom. Donc, c'est peut-être plus facile d'avoir accès à ces discours-là qui peuvent être bien construits, qui peuvent être cohérents, mais qui ont des conséquences visibles puis quantifiables. Là, on le voit.
Oui.
Puis une autre, mais moi, je me disais, on dirait que je ne suis pas satisfait par rapport à cette hypothèse-là, mais je me dis, oui, mais pourquoi est-ce que les jeunes fréquentent ou sont sensibles à ces idées-là. Et puis, je pense au fait que nos sociétés actuellement changent très, très, très rapidement. Hein? On vit dans une époque où tout s'accélère. Et puis, notamment, il y a un changement drastique quant aux normes. Puis, dans ce cas-ci, normes, ce qui touche, par exemple, tout ce qui est le genre, l'ouverture hein, envers les questions LGBTQ2IA+. Là. Donc, peut-être que ce changement très, très, très rapide, crée de l'insécurité. Des gens se sentent dépassés un petit peu par ce qu'ils voient, par les tendances de l'époque. Et je pense qu'à cet égard, ben, tu sais, les valeurs traditionnelles peuvent être une espèce de point de repère.
Hein, quelque chose où
c'est sécurisant. On s'accroche à ça, c'est un point d'ancrage, c'est une base qui est solide. Donc, face à l'insécurité, si on veut, montante par rapport à ces transformations-là en matière de normes, touchant le genre, ben, je pense que c'est comme une espèce de refuge, hein, les valeurs traditionnelles, une espèce de refuge dans lequel on peut aller se vautrer. Et puis, ouais, ça donne une espèce de point d'ancrage.
Est-ce que c'est un manque d'éducation? Puis là, je parle pas de catégorie sociale. Je parle vraiment, est-ce que c'est parce qu'on a pris pour acquis peut-être cette ouverture d'esprit-là, puis qu'on a arrêté peut-être de se sensibiliser à la maison? Je sais pas.
Bien, peut-être que oui. Peut-être que c'est un manque d'éducation. Puis il faut se rappeler que c'est important de parler à l'école, par exemple, ou à la maison, de parler d'ouverture, de tolérance, d'éduquer sur ces questions-là, parce que si on le fait pas, eh bien, évidemment, les jeunes vont le faire via d'autres moyens. Par exemple, en suivant, comme on le disait, des influenceurs ou vont s'accrocher à ce type de discours-là, très populaire, disponible sur Internet, des discours qui sont cohérents, qui sont bien présentés, qui sont... Là, j'ai bien présenté... J'adhère pas à ça du tout.
Non, dans le contenant. Dans comment c'est fait, dans comment c'est présenté.
Ouais, ce sont des discours qui sont efficaces, là, si les jeunes y adhèrent. Donc, oui. Puis, je tiens, je fais un clin d'œil, là, je tiens à mentionner tout le travail. Ce sont des chiffres qui nous proviennent d'un organisme qui s'appelle le GRI.
Oui.
Et puis, je tiens à mentionner tout le travail que fait le GRI à cet égard-là. Moi, je suis enseignant de sociologie au Cégep. Et puis, le GRI est venu à plusieurs reprises dans mes classes, et puis font un travail absolument exceptionnel. Ont des intervenants qui sont exceptionnels aussi.
Pour ceux qui ne le savent pas, le GRI Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui aide à démystifier tout ce qui est diversité sexuelle, de genre au sein de la société. Là.
C'est pas prôner quoi que ce soit, c'est expliquer, présenter aider. Où est-ce qu'on en est, parce que je sais qu'il y en a qui vont sauter aux barricades tout de suite. Mais Étienne, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, puis moi je reviens, je pense que là-dessus on aurait une discussion ensemble, là, au moins pour une heure, là. Mais Andrew Tate, là, il y a 10 ans environ, ça fait peut-être justement 10 ans que je fais de la radio, puis déjà on commençait à en parler, mais c'était underground. Puis les gens posaient pas de questions, puis voulaient pas aller voir. Puis mettons, à ce moment-là, j'avais 20 ans.
C'était juste un tata de l'Internet. C'était pas assez important.
Je travaillais avec quelqu'un qui aimait ça aller dans le dark web pour la job en passant, là. Puis qui aimait ça aller dans ces genres de petites strates-là dont on ne parle pas beaucoup. Puis c'était beaucoup de réponses parentales, genre, bof, des affaires d'Internet. Et ça, l'incompréhension, le manque de curiosité, le manque d'attention donnée à ça a fait en sorte que ça a fait un effet boule de neige, puis finalement que ça s'est parlé un peu dans les strates de l'école et autres, que les enseignants n'étaient pas au courant, que les parents n'étaient pas au courant. Puis ça me fait penser à tous les parents cool qu'on a vus, là, qui étaient bien au fait de ce qui se passait dans la réalité des jeunes au secondaire parce qu'ils s'intéressaient avec une ouverture, mais quand même avec une petite lumière qui est capable de s'allumer à des moments, qui jouaient au GameCube avec leurs enfants, qui jouaient au PlayStation, pas parce qu'ils avaient le goût de jouer, mais de comprendre ce qui se passait dans la vie de leur enfant, faisant en sorte qu'il y avait une réalité sincère devant eux puis un constat qui pouvait être fait. Puis il y a beaucoup de gens, moi la première, qui, dans l'habitude quotidienne, roulent nos vies là, puis continuent avec les outils qu'on a depuis toujours puis qui avancent comme ça, mais qui ne se posent pas peut-être assez de questions par rapport à ce qui est nouveau, qui ne s'intéressent pas même si ça demande du travail. Tandis qu'il y a des parents qui restent très au courant, qui posent des questions, qui disent « qu'est-ce que tu consultes? Montre-moi ce que tu écoutes ces temps-ci » et qui, eux, savaient et qui ont été capables de prémunir de leurs enfants de peut-être pas avoir de questionnement sur un Andrew Tate parce qu'entre jeunes, ils se convainquent, ils écoutent, ils vont en renforcement dans certaines positions sociales versus un « hey, tu penses quoi de ce qu'il dit, lui? Tu l'écoutes pourquoi? » Est-ce que tu trouves que ça a un sens? Et on a un devoir sociétal à faire de s'intéresser, malheureusement, même si ça prend du jus de cerveau.
Ça fait partie de l'éducation, là.
Absolument, absolument. Puis aujourd'hui, puis tantôt, on parlait que la société se transformait rapidement. Absolument. Puis je pense que en tant que parent, on a un devoir à faire de tu sais, au lieu de, comment dire, de juger les pratiques de nos enfants ou de juger ce qu'ils visionnent, ben de s'intéresser à ce qu'ils font, de s'intéresser au channel YouTube qu'ils suivent, qu'ils ou elles suivent. Parce qu'en effet, je pense qu'on a minimisé, si on veut, l'influence que peuvent avoir, catégorie générale, là, mais les influenceurs, parce que clairement, ça nous a échappé. Mm-hmm. On a minimisé l'influence de ces discours-là. Bon, ce sont des gens qui sont sur Internet. Je pense pas que ça va modifier nécessairement le comportement de mon enfant. Mais alors qu'on se rend compte que finalement, puis les chiffres du GRI, là, tu les mentionnais, Audrey, en début d'entretien sont alarmants, sont préoccupants. Donc oui, il y a vraiment un devoir à faire de s'intéresser à ce que nos jeunes font, aux gens qu'ils fréquentent, qui les influencent. Donc oui, ça nous ramène à notre devoir parental d'être là pour nos enfants, puis nous intéresser dans une perspective vraiment compréhensive et non pas moralisatrice,
c'est dur,
de s'intéresser à ce qu'ils consomment comme contenu, et puis d'entendre également ce que nos jeunes ont à dire, puis de comprendre comment ça se fait qu'il y a un recul, par exemple, de l'ouverture ou de la tolérance envers ces questions-là. Avoir vraiment être vraiment dans cette perspective-là, dans cette approche-là, de vouloir comprendre.
Tu sais, en début de conversation, tu as parlé, Étienne, à quel point c'était normal, cette espèce de mouvement conservateur-là qui revient chez les jeunes. On se balance avec les années. Puis le fait d'être traditionnel, c'est rassurant. Je me demande si on ne crée pas ça nous-mêmes. Puis c'est une drôle de question qui me rend un peu mal à l'aise, mais est-ce qu'on ne se tire pas dans le pied? Puis avec toute cause, là on parle de l'homophobie, là, je vais rentrer le racisme là-dedans, je vais rentrer tout ce qui nous dérange puis qui nous rend inconfortable. Des fois, j'ai le sentiment qu'on en parle tellement qu'on attire l'attention sur ça, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont comme un peu submergés. Là, c'est trop. Puis c'est là peut-être qu'on recule. Je ne sais pas si la question est claire, là, mais j'ai l'impression qu'on devient activiste sur certains combats de société à un point où nous-mêmes, on crée ce recul-là. C'est-tu clair?
Comme si on en demandait beaucoup, en fait. Hein?
Peut-être que c'est ça, oui.
On en demande beaucoup d'être ouvert à toutes sortes de nouvelles réalités. On demande aux enfants d'être sensibles à ça. Puis en effet, puis ça va tellement vite, il y en a tellement à faire que peut-être qu'en effet, à un moment donné, il y a un trop-plein. Et puis ce qui explique cette espèce de retour-là en arrière, qui explique que des jeunes, tout d'un coup, sont un petit peu... je veux dire, on doit être tolérant à toutes sortes de réalités. Comme on le disait, ce retour-là aux valeurs traditionnelles, solides, bien implantées. Voici c'est quoi un gars, voici c'est quoi une fille, voici c'est quoi un couple. C'est quelque chose de rassurant dans lequel, bon, on peut se reconnaître, plus facilement compréhensible. Fait que peut-être que oui, hein, il y a peut-être une piste de réponse.
Ben, j'ai pas la science infuse, mais je sens des fois que c'est ça, nous-mêmes, on attire l'attention sur quelque chose qui ne mérite pas cette attention-là. Puis je vais faire un exemple super court. Moi, mon oncle est homosexuel. Il est rendu dans la soixantaine. Il n'a pas eu la période la plus facile là, pour le coming out. Puis ça a toujours été littéralement normal chez nous. Moi, je m'en fous de ce que tu fais dans ta chambre à coucher. Tu comprends? Moi, j'avais deux oncles, point barre. Et là, en vieillissant, tu vois que c'est un sujet, ça fait jaser dans les médias. On parle du côté négatif, pas de l'homosexualité, mais de ce qui peut arriver, tu sais, des enjeux, de l'homophobie. Et puis c'est là que tu te mets à te dire comme, OK, il y a une différence. Ce que moi, je remarquais pas étant plus jeune, parce que ça fait...
qu'on met les projecteurs sur quelque chose qui...
Exactement.
Essentiellement dans ta vie au départ.
Pareil pour le racisme.
Mais c'est ironique parce que... On vient de dire qu'on a peut-être laissé aller des courants parce qu'on ne leur donnait pas de l'importance, parce qu'on pensait que c'était anodin.
On n'est jamais équilibré, en fait, en société, je sens.
C'est ironique, mais c'est super important ce que tu dis, parce que c'est sûr qu'il y a différentes façons de réagir à ça. Puis je vous écoutais parler, Étienne et toi, là, ça m'a fait penser aussi à tout le courant humoristique qui se fait serrer les ouïes. Là. Tu sais, vous n'avez plus le droit de rire de ça, vous n'avez plus le droit de parler de ça, vous n'avez plus le droit de ci, vous n'avez plus le droit de ça.
La liberté d'expression.
Est-ce que... Ou juste comme de dédramatiser, là, des fois par des farces. Est-ce que aussi le fait qu'on s'est aseptisé au niveau humour sur certains sujets a fait en sorte qu'on a plus ce courant-là qui dédramatise, puis un Yvon Deschamps qui commence à parler comme un beau sacripant niaiseux qui fait son raciste sur une scène, faisant en sorte que le monde disait ouais, « Hey, c'est-tu cave du monde demain? » Mais qui en riait, puis que ça a amené ces discussions-là, puis qu'on a perdu...
On rend tout tabou.
Oui. Est-ce que ça peut ne pas avoir aidé aussi?
Peut-être. C'est une question sensible. Peut-être que ça en fait partie. Moi, ce que je dirais là-dessus, je pense qu'il y a eu quand même des avancées sur ce plan-là. Là, puis moi, je le parle de mon point de vue personnel. Moi, lorsque j'étais plus petit, je venais d'un petit village, mais restait que reste que l'homosexualité ou le racisme, c'est quand même présent dans les discours, dans l'humour. Certains pouvant en souffrir. Je pense que mes enfants aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts sur ces sur ces questions-là, mais je mettrai ma posture de prof de sociologie ou de sociologue, puis dire, mais ce qui est vraiment important, puis qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'il faut tenter de comprendre. Puis parfois, on condamne certains comportements qu'on juge intolérants, bon, homophobes, racistes, etc. Mais c'est vraiment important aussi de faire ce travail-là, de tenter, OK, mais tentons de comprendre ces jeunes-là qui pourquoi? Portent ces valeurs-là. Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils ou elles les portent?
Au lieu de se fâcher.
Ces valeurs-là, au lieu de se fâcher, au lieu de les marginaliser, au lieu de leur coller des étiquettes, mais tenter de comprendre c'est quoi la source de ça. Puis je pense que ça serait vraiment un premier pas, si on veut, pour façonner la société dans laquelle on souhaite vivre.
Est-ce que c'est une tendance qu'on observe seulement au Québec ou, selon toi, il y a des phénomènes similaires dans d'autres pays occidentaux?
Bien, je pense que c'est un phénomène qui est global. On voit la montée de l'extrême droite, notamment en Europe. En ce moment, écoutez, on se parle alors que Trump est entré en fonction avant-hier. C'est très, très, très présent aussi aux États-Unis. Donc oui, je pense que c'est un mouvement qui est global. Et j'ose croire, même qu'au Québec, j'ose croire que c'est moins pire que chez nos voisins américains.
Donc, en même
évidemment,
temps.
Parce qu'en chose certaine, c'est pas cantonné au Québec. Là. Mm-hmm.
Ça peut-tu jouer aussi tout ce qui est... on parlait de la peur tantôt par rapport à la différence. T'sais. Dans nos écoles, est-ce qu'on apprend aux jeunes à reconnaître un peu leurs émotions puis à travailler pour pas qu'elles prennent le dessus dans certains contextes?
Ben, j'ose croire qu'on le fait. J'ose croire qu'on le fait à l'école, que les profs sont sensibilisés aussi à ces réalités-là. Donc, j'ose croire qu'on le fait, mais il y aurait quand même des questions à se poser sur à quel point est-ce qu'on le fait lorsqu'on parle, par exemple, d'éducation à la sexualité. Moi, j'ai un collègue qui s'appelle Patrick Doucet qui travaille sur ces questions-là depuis près de 30 ans, tente de ramener l'éducation sexuelle à l'école ou du moins de la transformer de manière à ce qu'on aborde certains sujets de manière plus crue, qu'on en parle davantage. Donc, est-ce qu'on le fait? Je pense que oui. Est-ce qu'on pourrait le faire davantage et puis autrement? Ben, je pense que oui aussi. Je pense que ça passe par là. À l'école, tout le monde y est, tout le monde s'y trouve. Donc, je crois que c'est un endroit privilégié où faire de l'éducation, un endroit privilégié pour faire de l'éducation sur ces questions-là parce qu'encore une fois, si on le fait pas, eh bien, les jeunes iront s'informer ailleurs, notamment sur Internet où on trouve toutes sortes de discours, et notamment des discours intolérants. Ouais. Oui, oui, absolument.
J'ai pas le choix, Étienne, d'aborder avec toi un sujet assez touché, là, mais chaque fois qu'on parle d'homophobie, surtout du côté de Montréal, dans les écoles, quelque chose qui revient tout le temps dans les discussions personnelles, mais personne n'ose les poser, malheureusement, de façon publique, c'est est-ce que l'immigration y est pour quelque chose? Et là, sans racisme, sans monter d'un grand rideau, là, juste le principe de culture qui est différent, ce qui est totalement normal, on va se le dire.
Ouais.
Puis nous autres, on est porte grande ouverte pour l'immigration, ce que moi, j'ai toujours admiré du Québec. Là. J'aime ça,
absolument.
Ce multiculturalisme-là. Mais est-ce que, malheureusement, la différence de culture peut amener ça chez nos jeunes dans les écoles? Parce qu'on le voit quand même. Là.
Bien, c'est sûr que oui, certaines personnes... qui ont grandi ailleurs avec des valeurs bon, qu'on pourrait qualifier de plus traditionnelles, c'est sûr que leurs prises de position parfois vont être différentes hein, ou ne sont pas rendus au même stade que nous sur ces questions-là. Je tiens toutefois à spécifier que dans l'étude menée par Le Gris, hein, on mentionne que la religion n'a pas d'impact.
Okay.
N'a pas d'impact. Hein, c'est ce qu'on mentionnait, là, que la religiosité des étudiants ou des élèves plutôt n'était pas en cause. Dans la montée de l'homophobie.
Sans parler de religion, j'aurais été vraiment plus vers le culturel dans la mesure où, tu sais, si tu as été élevé dans des valeurs où, par exemple, l'homosexualité, chez toi, c'est pas quelque chose qui est commun ou accepté, bien, je pense que sans parler de religion, c'est malheureusement quelque chose que tu as ancré en dedans de toi à la base. Là.
Absolument. En même temps, ici, on parle d'élèves, hein, fait que on parle des jeunes. Donc, écoutez, pour répondre à ta question, Audrey, j'oserais pas m'avancer là-dessus, faute d'avoir des données à cet égard, mais on peut faire l'hypothèse que oui, que ça peut jouer, et d'où l'importance, encore une fois, de mettre de l'emphase là, sur de l'éducation à cet égard et à poursuivre le travail que fait le GRI notamment, qui va dans les écoles. Hein, puis souvent, le GRI, comment ça fonctionne, c'est qu'on a des intervenants qui eux-mêmes font partie on pourrait appeler la diversité sexuelle, qui témoignent de leur vie, qui témoignent de leurs histoires, qui font en sorte que, bon, là, les élèves rendent compte que, bon, quelqu'un qui est homosexuel est quelqu'un qui me ressemble, qui a les mêmes valeurs que moi, avec lesquelles je pourrais très, très bien être ami. Donc, ça permet de dédramatiser, de démystifier, si on veut, l'homosexualité. Et tant mieux si ce discours-là aussi peut coller à des élèves qui ont été socialisés ailleurs, et de manière à ce qu'ils puissent se rendre compte que finalement, on a tout à gagner à être ouvert, à être tolérant envers les gens qui sont issus de la diversité sexuelle.
Le chiffre, c'était 40 % des jeunes qui éprouvent un malaise avec l'homosexualité en ce moment. Comme sociologue, en terminant, est-ce que tu as l'impression que ça peut s'estomper rapidement ou que ces chiffres-là risquent quand même d'augmenter dans les prochaines années?
Je peux pas prédire l'avenir, mais je pense que j'ai le même souhait que vous. Je souhaite évidemment que ce type de comportement-là, d'idées-là, s'estompe au fil des prochaines années. Et une étude comme celle-là, du moins, c'est comme un signal d'alerte. Hein. Fait que je souhaite que des moyens soient pris de manière à ce qu'on revienne du moins au niveau de 2017 là, et que ça puisse continuer à descendre là, au fil des prochaines années. C'est le souhait que je fais avant tout en tant que citoyen, en tant que papa, et en tant que sociologue, en tant que prof.
Étienne, depuis tantôt, je te présente comme sociologue, oui, mais comme auteur du livre « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins », je veux absolument qu'on le mentionne avant de se quitter. C'est un livre qui est sorti en 2024, à l'automne, si je ne me trompe pas. C'est là qu'on a le plus jasé. Là.
«
Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins et autres phénomènes de société ». Expliquez pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, qui ne l'ont pas lu. Tu traites de quoi exactement?
Ben, écoute, dans ce livre-là, j'aborde 7 thèmes différents. Ce sont des questions, moi, que j'aborde en classe. Je parle à la fois de la réussite des joueurs de hockey. Je parle de pourquoi est-ce que les gens ne souriaient pas sur les photos. Hein. Je ne sais pas si vous avez des photos de vos arrière-grands-parents, mais souvent, ils vont avoir un visage très sévère, très austère. Ils n'ont pas l'air très gentils. Donc, j'aborde des phénomènes comme ceux-là. Et évidemment, le titre du livre renvoie à un des chapitres de mon ouvrage sur pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins. Et puis ce chapitre-là, en fait, aborde les inégalités scolaires. Hein. On le sait qu'on n'a pas tous les mêmes chances d'avoir une trajectoire scolaire longue, d'aller à l'université, par exemple. Et puis, moi, j'ai tenté de mesurer ça en fonction des prénoms. On le sait qu'il y a certains prénoms qui sont fortement concentrés dans des classes sociales particulières. C'est le cas des prénoms anglophones qui sont donnés dans des milieux francophones. Donc, moi, j'ai tenté de vérifier avec les prénoms qui étaient à la mode. Là. Moi, je suis né en 89, là. Donc à la mode à mon époque, les Dave, les Steven, les Kevin. Puis je me suis dit, hey, je vais tenter de mesurer si les jeunes de mon époque ont tous eu les mêmes chances de devenir médecins en fonction, si on veut, de leur prénom. Et par là, en fonction de leur milieu social d'origine. Et ce que j'ai découvert, c'est que, par exemple, 2 Kevin sur 1000 naissances, nés dans les années 80, là, sont devenus médecins. Donc, c'est très, très, très possible de s'appeler Kevin et d'être médecin. Il y en a aujourd'hui, il y en a même qui m'ont écrit. Toutefois, c'est très, très peu lorsqu'on compare à d'autres prénoms. Si je prends mon prénom, Étienne, ils sont 10 Étienne sur 1000 naissances, nés dans les années 80, qui sont devenus médecins. 14 Antoine, 12 Louis. Donc, ce que ça démontre, c'est qu'en fait, il y a une inégalité d'accès, si on veut, à l'université. On n'accède pas à l'université uniquement en fonction de nos caractéristiques personnelles, notre potentiel intellectuel, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup à voir avec le milieu social d'origine. Donc, les jeunes issus de milieux qu'on appelle là, imparfaitement les milieux populaires, là, qui sont souvent caractérisés par des parents qui ont une scolarité plus courte, mais ont beaucoup moins de chances que les autres d'accéder à des programmes aussi sélectifs, contingentés, comme celui de la médecine, en fait.
Je trouve ça super intéressant, super intelligent aussi. C'est quelque chose à quoi j'aurais pas pensé de faire cette corrélation-là. J'imagine qu'on retrouve ce livre-là un peu partout dans les différentes librairies.
Oui, on le retrouve un petit peu partout.
Encore merci, Étienne, de ton temps ce matin. Super apprécié. Hey.
Merci pour tout.
À la prochaine.
À la prochaine, j'espère.
Étienne Guertin-Tardif, sociologue, auteur du livre « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins ». J'ai vraiment trouvé ça le fun aujourd'hui de parler de ces sujets-là sociaux qui vous font excessivement réagir en passant. Là.
Mais ça peut être émotif. Si tu t'appelles Kevin, tu dis « Oh, moi, je suis pas capable de réussir ». Mais tu sais, c'est pas l'apogée non plus être médecin. C'est juste que je trouve ça tellement intéressant, l'étude qui a été faite du genre « Hey, t'es-tu né dans une... » Tu sais, toi, là, ils t'ont donné ce prénom-là, pourquoi? Parce qu'il était populaire dans la classe sociale, tout le monde l'entendait, c'est un beau prénom. Là, tu te dis, ah, parfait, j'ai appelé mon fils comme ça. Mais est-ce que ta famille avait l'argent de t'envoyer dans des écoles où tu allais performer à ton plein potentiel? Est-ce
exactement
que tes parents t'ont répété toute ta vie que t'as pas besoin de plein d'études? C'est pas grave. Tu as juste à finir ton secondaire, tu vas trouver une job. Regarde, nous, on a trouvé une job. Mm. Est-ce qu'on t'a encouragé à aller plus loin là-dedans?
Il y a le fait aussi, je pense, qu'on a veut pas, là, dans le pur jugement sans réfléchir, une image de certains prénoms. Je vais vous nommer Karen.
Mais pourquoi? Parce que ça vient peut-être de classe
absolument,
sociale.
Absolument. Tu sais, Kevin, on le voit avec sa civique droppée. On a tellement ri, on a tellement jasé. Tu sais, on fait des blagues avec ça. Et, fait que je trouve ça fascinant, cette corrélation-là, que j'ai jamais vue abordée, vois-tu, dans des livres. Fait que avec celui d'Étienne Guertin-Tardif, vous pouvez définitivement évaluer ces corrélations-là. Super intéressant. Vous êtes dans l'open mic, il est 11h15. Et au retour, on se gâte. Lynyrd Skynyrd qui sera du côté du Centre Bell. On a une paire de billets pour vous.
Marceau.
Une autre de fête, ça passe trop vite ce show-là, surtout en bonne compagnie. Pascal, merci encore une fois de m'avoir enduré ce matin.
Ben là, franchement, merci à toi pour l'accueil.
Si jamais vous avez envie de réécouter les entrevues, ça se passe toujours sur le blvd.fm. Dans les prochaines minutes, Jacinthe Varel qui se pointe le bout du nez pour Marceau le midi. Marceau qui est toujours en vacances jusqu'à lundi. Et Pascal qui sera à l'animation. Jean Leloup, c'est ce que vous entendez derrière. Voyageurs, ça termine bien les choses. Vous étiez dans l'open mic. On se retrouve demain matin, même heure, même poste. Salut, là.